On est aujourd'hui le lundi 26 Tishrei et on est le 16 octobre. Le cours sera aujourd'hui pour l'élévation de l'âme à la mémoire de Armand Saïdou Khoury Ben Myriam pour l'année de son décès, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Claudine Khamisha Bat Henriette Kouka, ainsi que pour la guérison d'Avraham Ben Sultana. Un très très bref résumé de ce qui a été expliqué hier, surtout la conclusion, afin de rentrer directement dans le cours d'aujourd'hui. On a montré hier, j'ouvre une parenthèse comme j'ai l'habitude de le faire, impossible de comprendre réellement le cours d'aujourd'hui si on n'a pas bien en tête le cours d'hier. Et je reprends. On a donc montré hier la difficulté, apparemment la contradiction qu'il y avait entre différents enseignements, ceux des maîtres de la Torah, ceux de la Torah elle-même, de ce que l'on peut comprendre de la Torah, puisque la Torah nous explique que le monde a été créé en 7 jours. Notre monde a été créé en 7 jours. Et selon les définitions, selon les explications données déjà de très très nombreuses fois, on sait, on a déjà appris ensemble que le chiffre 7 est le chiffre qui incarne la dimension des limites. Des limites telles que l'on va les retrouver au niveau de la nature, où l'infini n'est plus de ce monde. En ce sens que chaque chose a un endroit, chaque chose a une fonction, chaque chose a un caractère, chaque chose a une identité, et chaque chose finalement est limitée en ce sens qu'elle trouve en face d'elle une autre dimension, une autre force qui exprime exactement le contraire. Et lorsque ces deux forces se réunissent, il y a nécessairement un combat jusqu'à ce que le plus fort gagne. L'eau et le feu, la droite et la gauche, le haut et le bas. Et donc, parce que notre réalité est une réalité de division, une réalité où s'affrontent et s'opposent les contraires, c'est la raison pour laquelle notre réalité est une réalité de limite, où finalement chaque chose et chacun d'entre nous, d'une certaine manière, est confiné à l'intérieur de son espace, de son temps, et ne peut en aucun cas sortir à l'extérieur de son espace, à l'extérieur de son temps. Ne serait-ce qu'au niveau d'une vie, chacun d'entre nous a un commencement et a une fin. Chacun d'entre nous vit à tel endroit et ne peut pas vivre à tous les endroits au même moment. C'est absolument impossible. Donc, toutes ces limites qui composent l'essence de notre réalité, de notre monde, toutes ces limites qui sont exprimées aussi par les lois rigides et extrêmement contraignantes de la nature, toutes ces lois-là, selon les codes bibliques, sont représentées par le chiffre 7, le chiffre 7 qui est lui-même l'expression des 7 sphirotes du bas, les 7 attributs divins qui, en se dévoilant jour après jour, premier jour, premier attribut divin, deuxième jour, deuxième attribut divin, ces 7 attributs divins sont eux-mêmes construits à partir de forces limitées. Et c'est la raison pour laquelle le monde, construit à partir de ces 7 attributs divins qui sont les 7 derniers, ce monde est lui-même limité. Or, la contradiction, selon le cours d'hier, c'est que nos maîtres, à partir d'une allusion très claire de la Torah, nos maîtres expliquent que le monde, notre monde, a été créé avec la lettre He, et comme on l'a expliqué hier, il faut absolument revenir sur ce cours, la lettre E qui fait allusion à la première lettre He du nom divin, car il y a 2 He dans le nom divin, et le premier He du nom divin fait allusion à la Bina. Or la Bina est la 8e Sphira du bas vers le haut, c'est-à-dire un attribut, une force, une qualité qui incarne des énergies, des lumières, des forces, au-dessus de notre monde, puisque notre monde a été créé avec le chiffre 7, et là nous sommes déjà dans la dimension 8. Or si notre monde a été créé avec la lettre E, automatiquement notre monde devrait être différent de celui que l'on connaît. on devrait pouvoir sentir effectivement l'infini, la capacité, la possibilité de se dépasser, de faire tomber toutes les limites que la nature nous impose, que notre monde nous impose. On devrait pouvoir vivre éternellement, on devrait pouvoir être en même temps ici et ailleurs, être au même moment à cette époque et à une autre époque, puisque toutes les limites que nous impose l'espace-temps sont encore une fois des limites émanant de la nature qui elle-même émane du secret du chiffre 7. Or, en nous disant que notre monde a été créé avec le chiffre 8, que représente le premier He du nom divin, c'est-à-dire ce que l'on a appelé hier la Sphira de la Bina, on ne voit pas du tout où ces forces surnaturelles, au-dessus de la nature par rapport à notre dimension, où et comment elles se manifestent. Donc c'est globalement sur cette question que l'on est resté hier. Et on va continuer maintenant et continuer à approfondir. Cette question est d'autant plus forte que, comme je l'ai expliqué hier, sans rentrer dans les détails, sur le mot « Be'ibar'am », on met en évidence que notre monde a été créé avec la lettre « E », mais nos maîtres aussi mettent en évidence que le monde a été créé par le mérite d'Avraham. Parce que dans le mot « Be'ibar'am », il y a le mot « Be'avraham ». Que le monde a été créé « Be'avraham », qu'il faut comprendre d'après le sens que le monde a été créé par le mérite d'Avraham. Alors, avant d'aller plus loin, essayons d'expliquer. Encore une fois, sur le plan technique, j'ai déjà de très nombreuses fois enseigné, expliqué que le génie de l'hébreu, c'est que chaque mot contient une infinité de sens et que selon la manière dont tu le lis, selon la manière dont tu ponctues à l'intérieur du mot lui-même, tu fais apparaître différentes notions, différents sens. Et ici, nos maîtres font apparaître deux sens au même mot, soit, comme on l'a expliqué, que le monde a été créé avec la lettre « E », ce qui évoque la question du cours, et aussi que le monde a été créé avec Avraham, c'est-à-dire en bon français, par le mérite d'Avraham. Alors d'abord, arrêtons-nous sur cette deuxième explication. Le monde est créé par le mérite d'Avraham, ce qui signifie que c'est le personnage d'Avraham qui justifie la création du monde. On va bien sûr devoir expliquer pourquoi. C'est-à-dire que quand le maître du monde a décidé de créer le monde, et quand on parle bien évidemment de création du monde, on fait surtout essentiellement, presque exclusivement, allusion à la création de l'homme, l'homme qui est le sujet, le but, la cause principale et la finalité, le pourquoi et le comment de toute la création. Je parle bien sûr de l'homme adamique, celui qui continue à perpétuer l'identité adamique jusqu'à sa réparation totale au moment de la délivrance finale par le Mashiach lui-même. En tous les cas, l'homme est le sujet essentiel de toute la création. Et voilà que nos maîtres nous disent que lorsque le maître du monde a pensé la création, il a justifié à ses propres yeux la nécessité de créer l'homme, de créer le monde, donc de créer l'homme, en pensant à Avraham. Et quand il a pensé à Avraham, il a trouvé la justification nécessaire à la création du monde. Alors bien évidemment, une infinité de questions se posent. Pourquoi Avraham plus que Moshe, celui qui a libéré Israël, nous a donné la Torah ? Pourquoi Avraham plus que Yitzhak ou que Yaakov ? Pourquoi Avraham plus que David ? Et surtout, pourquoi Avraham plus que le Mashiach lui-même ? Pourquoi Avraham ? Alors on pourrait répondre simplement parce qu'Avraham est le premier père. C'est celui qui commence l'histoire. C'est une réponse qui est juste, mais qui n'est pas encore complète. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec le personnage d'Avraham qui fait qu'il a été finalement le détonateur, le catalyseur de cette volonté du maître du monde de créer Adam. Alors, c'est d'autant plus intéressant que le fameux « et » qui a permis de créer notre monde, avec la question bien sûr à laquelle on n'a toujours pas répondu, ce fameux « et » est aussi le « et » qui a été donné à Avraham. Puisqu'au départ, Avraham s'appelait Avram, et il n'a pu devenir véritablement le père fondateur d'Israël qu'à partir du moment où ce « hé », ce fameux « hé » a été rajouté à son nom. Au moment où ce « hé » est rajouté à son nom, c'est à ce moment-là qu'il reçoit aussi l'ordre de se circoncire. Donc l'alliance est établie entre lui, sa descendance et le maître du monde. Et surtout, c'est à partir du moment où il reçoit le « hé » qu'il va pouvoir concevoir Yitzhak, donc commencer véritablement l'histoire du peuple juif. Le même « hé » qui aura donc servi à la création et le même « hé » qui va être donné à Abraham. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, on va revenir sur l'histoire du « hé » qui est donné à Abraham, et dans un premier temps, on va renforcer la question que l'on ne cesse de demander et on va pouvoir petit à petit commencer à répondre. À quelle occasion et pourquoi ce « hé » est donné à Abraham? Il y a un moment où Abraham semble désespéré, parce que ça fait déjà fort longtemps que le maître du monde lui a promis une descendance. Les années passent, il vieillit, elle vieillit, son épouse vieillit, et il n'y a toujours pas d'enfant en vue. Il y a un moment où effectivement il semble se décourager. Le maître du monde sent le découragement d'Abraham et lui dit à ce moment-là, « Sors de ta tente et contemple du haut vers le bas les étoiles. » C'est mot à mot ce qui est écrit dans le texte, puisque le texte en hébreu dit « Havet ha-shamayma et ha-kochavim », le mot « lehavit » en hébreu signifie toujours « regarder du haut vers le bas ». Or bien sûr, la question qui se pose est comment Abraham peut-il sortir de sa tente et regarder du haut vers le bas les étoiles? Nécessairement, il les regarde du bas vers le haut. Nos maîtres expliquent que le maître du monde a élevé Abraham, bien sûr il ne s'agit pas d'une élévation physique, mais a élevé Abraham au-dessus des étoiles, a libéré Abraham de l'emprise qu'exerçaient sur lui les astres et les étoiles, et le maître du monde lui a dit, je te libère du décret fixé par les étoiles, et comment je vais te libérer? En rajoutant un « hé » à ton nom, parce que ce que tu as vu au niveau des astres et des étoiles qui fait que tu arrives à ce découragement, à ce désespoir, ce que tu as vu, c'est que Abraham ne peut pas avoir d'enfant, mais moi je vais t'élever au-dessus des étoiles, je vais donc te libérer de ce décret, je vais rajouter une lettre à ton nom, la lettre He, et sur le nom Abraham, il n'y a pas de décret. Que sur le nom Abraham, sur le nom Abraham, mais pas sur le nom Abraham, quand on rajoute un « et ». Donc tu pourras, oui, enfanter. Voici les mots codés, bien évidemment, des maîtres d'Israël. Alors qu'est-ce que cela signifie à notre niveau? Cela signifie tout simplement, dans un langage plus moderne qui est le nôtre, c'est que selon les lois de la nature, ce à quoi font allusion les étoiles et les astres, selon les lois de la nature, il n'y avait aucune possibilité pour que Sarah et Abraham puissent ensemble enfanter. Il y avait quelque chose, une stérilité liée à ce couple particulier qui fait qu'ils ne pouvaient pas enfanter. Abraham, disent nos maîtres, était un grand savant par rapport à la science de l'époque, c'est-à-dire la connaissance des astres et des étoiles et surtout des influences astrales sur ce monde et sur l'homme. Abraham était le plus grand de sa génération dans ce domaine-là, une sorte de Einstein de sa génération, et il avait compris, en étudiant dans les moindres détails les effets que les astres et les étoiles avaient sur son propre couple, il avait compris qu'il n'y avait absolument aucune possibilité pour qu'il puisse enfanter avec Sarah. Avec une autre femme, oui, mais non avec Sarah. Avec une autre femme, la preuve avec Agar. Mais ce couple était sous le décret d'une stérilité absolument insurmontable. Vient le maître du monde et lui dit « Abraham, ce que tu as vu est juste. Tu es effectivement le plus grand savant dans ta génération et tu es capable effectivement de comprendre sans te tromper les influences qu'ont les astres sur ton couple. Effectivement, si je laisse ton nom Abraham, tu ne pourras jamais, comme je te l'ai promis, être le fondateur du peuple juif. mais je vais changer ton nom. Et je vais donc te libérer de ce décret. En changeant ton nom, je vais t'élever au-dessus des étoiles, ce qu'il faut comprendre dans notre langage moderne. Je vais te libérer de sous l'emprise de la nature, je vais t'élever au-dessus de la nature. Et comment je vais te donner ces forces surnaturelles? En rajoutant le fameux « et » qui a servi à la création, ce fameux « et », je vais le rajouter à ton nom, et en le rajoutant à ton nom, tu seras donc un personnage nouveau, mais surtout un personnage qui vit au-dessus des lois de la nature. Et donc on comprend parfaitement ce que dit le verset « Avet hashamaymaur et akochavim »« Regarde les étoiles du haut vers le bas » C'est-à-dire, je t'ai élevé au-dessus des limites de la nature, en te donnant ce « et ». Donc, on ne fait par cette explication que renforcer la question qui dure depuis le cours d'hier. Le « et » qui incarne la Bina est donc bien une force surnaturelle. La preuve, c'est qu'en la donnant à Abraham, il a pu s'élever au-dessus de la nature. Donc, comment une force surnaturelle peut-elle être la force qui va créer ce monde régi par la nature? Alors on va enfin maintenant commencer à comprendre. En vérité, ce que nos maîtres, ce que la Torah et nos maîtres nous expliquent ici, c'est une fois de plus le principe fort connu dans mes cours, mais que je veux réenseigner aujourd'hui d'une manière plus puissante encore, ce principe fondamental que toute l'existence, toute la création a une dimension visible et une dimension invisible. Exactement de la même manière que l'homme a un corps et a une âme, comme on le voit parfaitement dans la création de l'homme, d'abord son corps est créé à partir de la terre, ce qui signifie bien sûr qu'il y a une dimension extrêmement matérielle dans l'être. Mais après avoir créé la dimension matérielle à partir de la terre, qu'est-ce que le verset dit ? Vaipar be'apav nishmat chayim. Le maître du monde a soufflé en lui une âme de vie. Et nos commentaires font remarquer que on aurait pu très bien dire que le maître du monde a fait venir en lui une âme de vie, qui aurait signifié aussi qu'il y a une autre dimension spirituelle intérieure qui va se trouver en lui, à l'intérieur du corps. Ça nous aurait déjà suffi au niveau de l'enseignement. Mais la Torah va beaucoup plus loin. Ce souffle, qui est donc l'âme, qui rentre et qui se cache à l'intérieur du corps, provient du maître du monde lui-même. La métaphore, l'image est bouleversante. De la même manière que son corps a été créé à partir de la terre et non à partir de Dieu lui-même, on aurait pu imaginer que Dieu fasse descendre l'âme des mondes spirituels, mais que cette âme ne soit pas quelque chose qui sorte, qui émane de Dieu lui-même. Or, regardez ce que dit le verset. « Vaipar be'apav » le maître du monde souffle lui-même à l'intérieur de ce corps. Ce qui veut dire que l'âme est une émanation du divin. Ce n'est pas une créature, une force spirituelle uniquement, ce qui en soi encore une fois aurait pu nous suffire, mais c'est une véritable émanation du divin, ce qui veut dire qu'une partie du divin se trouve dans l'homme. Mais quand je vois l'homme, même l'homme adamique, comment arriver à imaginer, penser, et à plus forte raison ressentir que quelque chose de divin se trouve en lui ? Qu'une véritable partie de Dieu, si j'ose dire, se trouve à l'intérieur de l'homme. C'est quelque chose d'inimaginable. C'est ce que l'on reverra quand on reprendra la semaine prochaine les cours sur le Tanya, que Job lui-même disait que la Neshama s'appelle Chelek Eloka Mima'al, une partie de Dieu, qui se trouve à l'intérieur de l'homme. Job lui-même révélera ça. Et de toute façon, c'est exactement ce que nous dit le verset. Même s'il s'agit d'un souffle et non d'une partie de Dieu lui-même, c'est malgré tout quelque chose qui émane de Dieu. Mais cette partie émanant de Dieu est complètement dissimulée, cachée, voilée à l'intérieur de l'homme. Mais cette dimension voilée, cachée, est ce qui permet à l'homme d'être, d'exister et de vivre. La preuve, c'est que comment s'appelle ce souffle ? Chaïm. Qui englobe toutes les forces, toutes les énergies, tout le vécu, toute l'histoire de l'homme. Ce qui veut dire que toute l'histoire de l'homme provient de cette force qui est complètement cachée à l'intérieur de l'homme, au point que jusqu'à aujourd'hui, les savants s'entêtent à ne pas ouvrir leurs yeux, ou plutôt ne pas ouvrir leur cerveau, et d'admettre l'évidence que quelque chose de mystérieux qui dépasse la nature est le moteur qui permet l'existence et le fonctionnement de la nature. Évidemment, les savants ne peuvent pas l'admettre parce que ça remettrait en cause trop de choses, mais dans leur fond intérieur, aujourd'hui, les découvertes scientifiques sont telles que plus personne d'honnête peut échapper à cette conclusion que la nature elle-même est régie par quelque chose qui n'a rien à voir avec la nature, même si on ne veut pas encore l'appeler Dieu. La science a suffisamment avancé aujourd'hui pour arriver à cette conclusion. Mais c'est bien sûr complètement censuré aujourd'hui parce que c'est philosophiquement une remise en cause tellement révolutionnaire que le monde n'est pas encore prêt à cette remise en cause. Mais quoi qu'il en soit, de la même manière que dans le corps limité, matériel et charnel de l'homme, se trouve quelque chose qui n'a rien à voir avec ses limites matérielles et charnelles, puisque c'est une émanation du divin qui, comme le divin, est forcément infini, exactement de la même manière, dans le monde, se trouve une âme qui est complètement, complètement surnaturelle en rapport aux limites imposées par la nature à ce monde, ou plutôt à l'extériorité de ce monde. De la même manière que dans l'homme, il y a un corps extérieur limité et une âme intérieure cachée, illimitée, au départ, cette chose est vraie dans le monde lui-même. Il y a dans le monde un corps et une âme. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau, parce que les croyants, quelle que soit leur religion, ont depuis fort longtemps admis l'existence d'une âme, d'une énergie, d'une spiritualité à l'intérieur du corps. Même les idolâtres reconnaissent, admettent l'existence de quelque chose de spirituel, de non matériel, de non naturel à l'intérieur du corps. Mais la Torah va beaucoup, beaucoup plus loin. Avant même de parler de l'homme, de son corps et de son âme, puisque ce verset est dit avant qu'on ne reprenne le récit de la création de l'homme avec un corps et avec une âme, juste avant, la Torah nous dit que le monde a été créé avec la lettre E, et ça fait donc presque une heure et demie entre hier et aujourd'hui que je vous tenais en haleine avec cette question, mais comment c'est possible? Le monde, c'est le monde de la nature, donc la Bina, qui est une sphira qui représente l'illimité, ne peut pas être le moteur, la matrice de notre monde. On a maintenant la réponse. Avant même la création de l'homme, la Torah nous prévient que le monde, lui, déjà a été créé sur le principe d'un corps et d'une âme. Il y a une âme dans le monde, et c'est la fameuse lettre E. C'est-à-dire, ne crois pas que seul l'homme est doté d'une âme. Ne crois pas que le monde extérieur, le minéral, le végétal, l'animal, c'est uniquement de la matière. Même le minéral a une âme. Tout a une âme dans ce monde. C'est-à-dire une énergie intérieure qui lui permet d'exister. Et cette énergie intérieure n'a rien à voir avec l'aspect extérieur du monde. Parce que l'aspect extérieur du monde est lui limité. Alors que cette énergie, elle, est illimitée. On va voir bien sûr dans quelques instants. Alors, le pourquoi et le comment, à quoi elle sert et comment elle se manifeste. Et donc, quand la Torah et nos maîtres nous disent que le monde a été créé avec la lettre He, nos maîtres ne font pas allusion à l'extériorité du monde, mais à l'intériorité du monde, à l'âme du monde. Et l'âme du monde est effectivement au niveau du chiffre 8, l'âme du monde échappe aux limites du chiffre 7, et l'âme du monde nous connecte à une dimension qui est totalement au-delà des limites de la nature. Alors comment cette âme se manifeste? Eh bien, c'est très simple à comprendre. Première explication, C'est le secret des miracles. Évidemment, pour 99,9% des croyants, y compris à l'intérieur du peuple juif, qui n'ont pas véritablement la compréhension du mécanisme, du phénomène miracle, pour pratiquement tous les croyants, le miracle, c'est quelque chose, bon ben, une sorte de tour de magie que fait le bon Dieu. On y croit, on n'y croit pas, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vient complètement, complètement de l'extérieur, une intervention divine qui n'a rien à voir avec notre monde. Or, voilà que les véritables savants de Dieu, qui sont les maîtres d'Israël, savaient depuis des millénaires que cette explication est complètement fausse. Le miracle est le dévoilement de forces qui sont depuis le départ à l'intérieur de ce monde. Mais des forces qui ne se dévoilent que lorsque l'âme de ce monde se dévoile. Mais ces forces sont à l'intérieur de ce monde. Je vais vous donner un exemple et au fur et à mesure, je vais expliquer. Nos maîtres nous expliquent que le miracle de l'ouverture de la mer avait déjà été introduit dans la création au moment où Dieu a créé l'océan. Je parle bien sûr selon le langage métaphorique de nos maîtres. Mais au moment où Dieu a créé l'océan, il a prévenu l'océan et lui a dit « Sache qu'un jour, je te demanderai de t'ouvrir devant mes enfants. » Et l'océan a accepté. Quand est arrivé le moment, le maître du monde, disent nos maîtres, a rappelé à l'océan, à la mer, c'est pas l'océan, a rappelé la mer, a rappelé à la mer son engagement et la mer s'est ouverte. Nos maîtres posent une question mais évidente que vous avez tous et toutes sur cet enseignement. Mais à partir du moment où c'est Dieu qui fait le miracle, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de poser des conditions et de prévenir des millénaires à l'avance l'eau qu'elle va devoir s'ouvrir. C'est lui le maître du monde. Et puisqu'on parle d'un miracle, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la logique. Il fait ce qu'il veut. Quelle est la réponse de nos maîtres? Ben non. Tu vois de cet enseignement que nous n'avons rien compris au miracle. La capacité qu'a l'eau de s'ouvrir est une force qui existe à l'intérieur de l'eau elle-même. Mais cette force, généralement, ne se dévoile jamais parce que, dans le cycle normal du temps et de l'histoire, seules les forces extérieures de l'eau, qu'on pourrait appeler les forces liées au corps de l'eau, se manifestent. Et quand les forces liées au corps de l'eau se manifestent, l'eau ne peut que couler et ne peut en aucun cas s'ouvrir. Mais l'eau elle-même est dotée d'une autre force, qui est son âme, qui est son fameux « hé » qui est à l'intérieur. Et les forces du « hé » non seulement n'ont rien à voir avec les forces du corps de l'eau, mais sont capables de bouleverser les forces du corps, de transformer la nature de l'eau, et de lui faire faire exactement le contraire de ce que son corps généralement lui fait faire. C'est pour ça que l'eau ne s'est pas ouverte parce que Dieu tout d'un coup a décidé de l'ouvrir. Simplement que Dieu à ce moment-là a donné suffisamment de puissance, de force à l'âme de l'eau de se réveiller, de prendre le dessus sur le corps et automatiquement de nouvelles lois se sont dévoilées et ont agi à l'intérieur de la nature et l'eau s'est ouverte. Ce que je dis ici, je sais que c'est très pédant ce que je vais dire, mais parce que je suis obligé de le dire, je dis des choses qui sont en avance de plusieurs millénaires sur les plus grands savants de notre époque et bien après encore. Mais un jour viendra où la science arrivera à prouver ce que je dis, où la science se rendra compte qu'il y a des énergies infinies cachées à l'intérieur de la nature elle-même qui, lorsqu'elles se dévoilent, sont capables de faire faire à la nature des choses totalement, absolument, radicalement différentes à ce que nous percevons en général durant le cycle normal, entre parenthèses, de l'histoire. Le miracle n'existe pas. Tout a déjà été prévu dès le départ. Simplement, encore une fois, que depuis des millénaires, nous ne vivons qu'au niveau du corps de la nature, mais lorsque l'âme de la nature se dévoile, tout est bouleversé, tout change. Alors vous comprenez que si c'est vrai au niveau du minéral, comme l'eau, imaginez-vous les forces inimaginables dont pourrait être capable l'homme si véritablement son âme se dévoilait. Vous comprenez pourquoi, et pourtant vous me connaissez, combien je suis anti-charlatanisme et combien je suis anti-rêveur et spiritualité déconnectée et du n'importe quoi. Mais malgré tout, combien de fois je vous ai enseigné, je vous ai rapporté cet enseignement qui pour moi est d'une évidence aussi évidente que je suis en train de parler en ce moment. Nos maîtres nous affirment qu'à l'époque du Baal Shem Tov, qui vivait dans une petite ville d'Ukraine, il se rencontrait tous les jours avec Rabbi Chaim Ben Attar, le fameux Orach Chaim, qui lui vivait à Jérusalem. Tous les jours, ils se rencontraient, ils étudiaient ensemble la Torah. À 4000 km de distance, il y a 350 ans. Comment ils faisaient? Comment ils faisaient? Ben, c'était une rencontre au niveau de leurs âmes. Bien sûr que les corps ne se rencontraient pas, mais au niveau de leurs âmes, ils étaient l'un et l'autre capables de dévoiler ces énergies cachées à l'intérieur de l'être, et l'âme n'est absolument pas limitée dans l'espace-temps. Et ils se rencontraient réellement, et avaient des échanges, et se parlaient, etc. Étudiaient la Torah ensemble. Exactement comme Skype où l'ordinateur peut faire aujourd'hui. On a trouvé la machine capable d'amener au même endroit, par le biais d'une image, des personnes éloignées à des milliers de kilomètres. C'est exactement ce que est arrivé à faire sans avoir besoin d'une machine. Quand nos maîtres nous parlent, je ne vais pas trop insister parce que je ne veux pas rentrer dans le surnaturel, mais nous parlent du phénomène qu'on appelle Kfitsat Aderer. Il y a eu de très très grands maîtres, de très grands justes, des prophètes aussi qui étaient capables de parcourir une distance de plusieurs milliers de kilomètres en quelques secondes, comme dans les films de science-fiction. Je le dis avec la plus grande simplicité, la plus grande évidence, je n'ai aucun problème à accepter, à ressentir cette possibilité, mais aussi clairement que je suis en train de toucher mon front maintenant. Parce que nous, ça nous paraît dingue, ça nous paraît de la folie, parce que nous sommes coincés uniquement à l'intérieur de la dimension corps de la nature. Mais ceux qui atteignent la dimension âme de la nature sont capables de sortir complètement de l'espace-temps. Et c'est l'une des grandes révolutions qui va commencer lentement, mais sûrement à apparaître, à partir de la délivrance finale. Pas d'un seul coup, parce que ça serait trop bouleversant, trop déstabilisant, mais au fur et à mesure, l'humanité va apprendre à connaître et à dévoiler l'âme du monde, et en dévoilant l'âme du monde, l'humanité va accéder à des forces qui n'appartiennent plus à la dimension 7, mais à la dimension 8. Jusqu'à ce que l'humanité se soit suffisamment préparée à rentrer dans ce qu'on appelle le monde à venir, Olam Haba, et dans le Olam Haba, il n'y a plus de dimension 7, on n'est que dans le 8, dans le 9, dans le 10, et beaucoup plus encore. Et ça n'a plus rien à voir avec ce que l'on connaît aujourd'hui. Vous comprenez maintenant, pour revenir à un niveau plus simple, comment au niveau d'un homme, quand un homme arrive à dévoiler son âme, c'est pas simplement qu'il devient croyant, qu'il devient religieux, qu'à Dieu ne plaise. Parce qu'en devenant croyant et religieux, il devient tout simplement idiot. C'est pas ça que je dis. La preuve qu'un homme dévoile son âme, c'est qu'il voit en lui se dévoiler et naître des forces qui font de lui un être largement différent du commun des mortels, dans sa capacité de comprendre, dans sa capacité d'investir, dans sa capacité de faire, dans sa capacité de réaliser, au point que ceux qui le voient se posent la question, mais comment fait-il pour faire, pour réaliser tellement de choses? Comment est-il possible? Mais parce que se dévoilent en lui des forces qui n'ont rien à voir avec celles qu'ont le commun des mortels. Et on est encore loin de parler de forces miraculeuses, mais simplement un peu plus de force que le commun des mortels, parce que lui est déjà au niveau de son âme. un homme qui se connecte à son âme, c'est pas seulement un croyant, un religieux, ça devient un surhomme par rapport, encore une fois, au commun des mortels. Et plus il dévoile son âme, et plus il est capable de réaliser des choses que le commun des mortels ne peut en aucun cas même comprendre comment c'est possible de telles choses. Comme nous, à l'intérieur du peuple juif, nous le savons et nous l'avons entendu et nous l'avons reconnu et parfois vu au niveau des grands maîtres des différentes générations qui étaient capables d'abattre un travail, de réaliser des choses, d'atteindre des projets et des buts où chacun d'entre eux aurait nécessité des milliers de vies pour un homme comme moi et vous, et eux étaient capables de réaliser des milliers de choses en 60 ans, 50 ans, 70 ans. Alors que pour chacun de leurs projets à eux, pour quelqu'un comme moi ou vous, il aurait fallu plusieurs millénaires. N'oublions pas, mes amis, que le grand, l'immense, l'inatteignable Hari HaKadosh est mort à l'âge de 38 ans. Ce qui veut dire que jusqu'à l'âge de 38 ans, il est arrivé à atteindre un niveau de Torah que jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à atteindre l'ombre de l'ombre de l'ombre, du commencement de l'ombre, du semblant de l'ombre, de l'ombre qui n'est pas une ombre, de l'ombre de l'ombre, etc. Qui aujourd'hui, après et depuis le Hari HaKadosh, peut prétendre avoir seulement approché l'ombre de l'ombre de l'ombre de sa Torah? 38 ans, il est mort. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et plus on étudie les secrets de la Torah, plus on se rend compte, mais comment c'est possible? Mais d'où il sort? Comment c'est possible? 38 ans, moi, à 38 ans, j'avais encore des couches et je sais pas, moi. J'avais encore une tutute dans la bouche à 38 ans. Qui j'étais à 38 ans? Et même le Mashiach sera son élève. Oui, je le dis, même le Mashiach sera son élève dans ce domaine-là de la Torah. Bien sûr. Comment c'est possible? Parce que l'âme est sans fin. Et plus tu dévoiles ton âme, et plus tu arrives à des niveaux inimaginables. Et finalement, revenons encore une fois à cet enseignement. Quand la Torah nous dit que le monde a été créé avec la lettre E, la Torah nous crie ici un message inimaginable. Sortez de vos limites, arrêtez de vous voir petits, arrêtez de vous voir comme des hommes singes ou des hommes animaux. Laissez Darwin avec ses fantasmes et avec ses honneries. Car lui, effectivement, n'était qu'un singe. Mais pas les hommes, pas les vrais. Pas ceux qui ont le bonheur et le mérite de descendre de Adam. Ceux qui portent en eux la dimension adamique, ceux-là ont une âme. Est-ce que vous êtes conscient des forces inimaginables qui se trouvent en vous? Est-ce que vous êtes conscient des choses inimaginables que vous pourriez réaliser si simplement vous vous connaissez? Tiens, cette âme. C'est pour ça qu'encore une fois la Torah nous dit, le monde a été créé avec la lettre E, sortez de vos limites, arrêtez de vous voir petit. Et maintenant on va pouvoir répondre à l'autre question. Pourquoi nos maîtres nous disent, l'allusion est dans la Torah bien sûr, que le monde a été créé par le mérite d'Abraham? Parce qu'Abraham est le premier homme qui s'est connecté pour la première fois à cette âme qui lui a donné pour la première fois depuis l'histoire de Adam des forces surnaturelles capables de contrecarrer, de bouleverser les lois et les limites de la nature. Il est le modèle de cette connexion au Hé, le modèle de cette connexion à l'âme qui remet toutes les limites de ce monde en question. Il est le premier à avoir expérimenté la connexion à l'âme. Quand le maître du monde lui dit « Je vais rajouter un hé à ton nom », qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Le hé, tu le portes en toi. Tous les adamiques ont ce hé en lui. Mais personne n'est connecté à ce hé. Toi, tu es le premier qui va se connecter à ce hé. Et en te connectant à ce hé, tu vas t'apercevoir que la limite, que la nature ne peut plus te limiter. La nature dit que tu ne peux pas avoir d'enfant, tu vas avoir un enfant. Et c'est comme ça que naît le peuple juif. Yitzhak naît de cette connexion de son père et de sa mère, puisque évidemment, Sarah aussi a reçu ce hé, les deux ont reçu ce hé, donc les deux se sont connectés à cette âme, à cette force intérieure, et c'est comme ça qu'est né Yitzhak, c'est comme ça qu'est né le peuple juif. Et vous avez compris tout le secret de l'éternité d'Israël. Pourquoi c'est un peuple qui ne disparaît pas? Pourquoi c'est un peuple que l'humanité tout entière veut faire disparaître? Et c'est le seul qui ne disparaît pas. Et c'est le seul qui enterre génération après génération tous ceux qui voulaient le faire disparaître. Parce que le peuple juif est né du dévoilement du Hé. Et comme il est né du dévoilement du Hé, il ne pourra jamais disparaître. Et tout ce qui concerne le peuple juif n'est que le dévoilement du Hé. Il a reçu la Torah qui contient 5 livres. 5, la valeur numérique de Hé. Sa Torah lui donne des forces infinies. Et toute son histoire, comment après des millénaires d'histoire dispersées aux quatre coins de la terre, il arrive à revenir sur sa terre et à se reconstituer en tant que nation? Où a-t-on vu un cas semblable dans toute l'histoire du monde? Et maintenant, vous comprenez pourquoi l'alliance se fait le huitième jour. Le chiffre 8 qui est l'attribut divin, la bina correspondant au premier hé du nom divin. Vous comprenez donc pourquoi le huitième jour on se circoncit. Parce qu'en étant circoncis, un juif est en permanence relié au hé qui se trouve à l'intérieur de lui. Il peut malheureusement fauter et créer des murs de béton entre lui et ce hé. Et c'est malheureusement ce qui se produit pour la grande majorité d'entre nous. Mais l'individu, lui, peut se déconnecter de son hé, mais pas la nation. La nation, comme le maître du monde l'a promis, sera toujours connectée à ce hé, et c'est la raison pour laquelle la nation, elle, malgré ses fautes, malgré ses chutes, ne disparaîtra jamais. Et toute l'histoire d'Israël en est la preuve. Maintenant, bien évidemment, au niveau du peuple juif, cette vérité apparaît d'une manière inimaginable et irréfutable, mais cette vérité est vraie aussi au niveau de chaque homme, de chaque femme qui porte en lui la dimension adamique, c'est-à-dire, bien évidemment, les non-juifs aussi. En tant qu'individu, pas en tant que nation. Mais à partir du moment où je suis un adamique, j'ai en moi cette âme, j'ai en moi ce hé, et je peux, en me connectant à lui, décupler d'une manière presque infinie mes forces, parce que je ne suis plus connecté uniquement au corps de mon être, mais à l'âme de mon être. Donc, avant de passer aux questions, je fais un résumé de tout ce qui a été dit pour l'instant. Demain, on continuera ce cours, mais on a aujourd'hui conclu finalement et répondu à la question qui avait été posée hier. La question était, encore une fois, quel est le lien entre la Bina qui incarne une énergie surnaturelle et ce monde créé avec les limites de la nature? On a répondu qu'il ne faut pas confondre le corps et l'âme. Ce monde est doté d'une âme, et cette âme, bien évidemment, est le fameux hé auquel la Torah fait allusion. Le hé donné à Abraham, qui va faire de lui le modèle de l'humanité, c'est-à-dire cette capacité, ce devoir de se connecter au hé. Le peuple juif naît de cette connexion au hé. Et je tiendrai juste à rajouter aussi que le seul endroit sur terre où véritablement ce hé se dévoile, c'est bien sûr la terre sainte, la terre appelée sainte par l'humanité tout entière. C'est quoi sa sainteté? Ne demandez pas à quelqu'un dans la rue pourquoi on l'appelle la terre sainte, il n'en sait rien. Oui, il vous dira quelque chose de plus ou moins juste ou surtout faux. Mais la véritable raison pour laquelle cette terre est sainte, c'est parce que pour l'instant, car les choses changeront au moment de la délivrance finale, mais pour l'instant, le seul espace où ces énergies se dévoilent, ces énergies nishmatiques se dévoilent, et pas seulement corporelles, c'est pas seulement le corps de la terre qui se dévoile, mais l'âme de la terre, le seul endroit, c'est dans la terre sainte, la terre d'Israël. C'est la raison pour laquelle tous les peuples veulent cette terre, parce que dans leur subconscient, dans leur inconscient, ils sentent que cette terre est différente de toutes les autres terres et que celui qui est connecté à cette terre reçoit des forces qu'il ne peut en aucun cas recevoir ailleurs. C'est pour ça que quel bonheur et quel mérite de pouvoir vivre en Israël, c'est la raison pour laquelle c'est peut-être le plus grand des malheurs qu'il puisse arriver à un juif aujourd'hui, je dis bien, aujourd'hui, car quand on ne pouvait pas faire autrement, on ne pouvait pas faire autrement, mais aujourd'hui, le plus grand malheur que puisse vivre un juif, c'est de vivre à l'extérieur de sa terre, même s'il n'en est pas conscient, parce qu'ayant la possibilité de se connecter à ce « et », de se connecter à l'âme du monde, et donc à plus forte raison de se connecter véritablement à sa propre âme, il reste perdu dans les fins fonds de l'obscurité et de l'exil, complètement déconnecté de son identité véritable. C'est le plus grand malheur qu'il puisse arriver à un juif aujourd'hui, même si malheureusement il n'en est pas conscient. C'est vrai que quelqu'un qui dort n'est pas conscient qu'il est en train de dormir à ce moment-là. Quelqu'un qui est dans le coma n'est pas conscient qu'il est dans le coma à ce moment-là. Mais ça n'empêche qu'il dort ou qu'il est dans le coma. Seulement après s'être réveillé, il va dire « Waouh, mais comment j'ai pu dormir si longtemps ? Waouh, mais dans quel état j'étais ?» C'est le fameux psaume du roi David qui dit qu'au moment de la délivrance, « Aez aïnou kecholmim » on va s'apercevoir qu'on a passé notre existence à dormir. On ne faisait que rêver. On n'était pas dans la réalité vraie. Car pour un juif, le seul endroit où la réalité est vraie, c'est ici en Eretz Israël. On va passer aux questions et on continuera ce cours demain. Je ne vois pas de questions, je vais attendre quelques secondes. Et je tenais, alors je profite des quelques secondes avant que les questions arrivent, si elles arrivent, ou alors vous êtes tellement soufflé que vous n'avez pas de questions. Mais quoi qu'il en soit, je tenais donc à préciser que n'oubliez pas notre rendez-vous de dimanche prochain. Et nous allons à Hebron en live, ça va être un moment très 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 fort, un moment très 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 important. Et je vais profiter de ce moment-là, puisqu'on est encore au début de l'année, je vais profiter de ce moment-là pour prier, bénir, si j'ose dire, tous ceux qui se seront inscrits, tous ceux qui auront participé. Ça sera un moment très très fort, il y aura bien évidemment aussi de nombreuses explications sur l'endroit. Il est vrai qu'on a déjà été de nombreuses fois à cet endroit, je crois qu'on a déjà fait un live ou deux, mais de toute façon, un endroit à ce point puissant, à ce point infini est inépuisable et il y aura encore et encore et encore des choses à vivre, à expliquer, à ressentir, à transmettre et surtout les bénédictions. Je tiens à profiter de l'occasion pour vous dire que tous ceux qui s'étaient inscrits pour les différentes bénédictions au moment de l'ouverture du Héral, pendant toutes les fêtes depuis Rosh Hashanah, tout a été fait bien sûr avec beaucoup beaucoup de force, beaucoup d'intensité, parfois je le faisais même plusieurs fois pendant la fête, le matin, l'après-midi, quand on ouvre, parce qu'on ouvre à différentes reprises le Héral, je ne me suis pas contenté de le faire une fois seulement. Et donc, comme je vous l'ai dit, tous ceux qui verront leur demande se réaliser, qu'ils m'envoient un message pour que l'on puisse en parler. Je tenais à profiter de l'occasion aussi pour vous dire que j'ai déjà reçu un message d'une personne qui avait demandé de prier pour elle, pour sa famille, Et cette personne était censée partir à Las Vegas au moment même où il y a eu l'attentat et se trouver justement à cet endroit-là au moment de l'attentat. Et finalement, il y a eu un empêchement, entre parenthèses, divin, qui a fait que le voyage a été annulé. Ils sont restés à Paris, ils ne sont pas partis. Et avec stupeur et étonnement, ils ont appris plus tard que, comme tout le monde, que l'endroit où ils auraient dû se trouver, et il y a eu donc ce malheur, cette catastrophe, et donc finalement, ils ont peut-être échappé à cette catastrophe. Et entre-temps, bien évidemment, où les bénédictions s'inscrivent, c'est qu'entre-temps, j'avais déjà prié pour eux, et l'annulation de leur voyage a eu lieu après que les bénédictions les concernant avaient été faites. Et c'est comme ça que finalement ils ont tenu à me dire que eux, en tous les cas, ressentaient très fortement que c'était grâce à ces bénédictions que finalement ils avaient été sauvés de cette catastrophe s'ils s'étaient trouvés ce jour-là à cet endroit-là, à Las Vegas. Donc quoi qu'il en soit, on continue ce cours demain et on se prépare à cet événement très très important de dimanche. Inscrivez-vous, demandez vos demandes de bénédiction de manière à ce que ça puisse être un moment très très fort que nous vivrons ensemble. Et en attendant, à tous et à toutes, une très très bonne journée.